Bonsoir à tous et bienvenue dans Alter Echo, l'indispensable émission de contre-information et de critique des médias. Olivier au micro. Comme vous le savez tous, Alter Echo, c'est tous les mercredis à 22h sur Radio Campus. C'est rediffusé également sur Campus sur 107.2 le vendredi à 14h. Et puis, nouveauté, c'est également rediffusé le lundi matin vers 10h sur Radio Panique 105.4. Et il y a également le site internet de l'émission www.multimania.com/Alter Echo. Alter Echo, ça s'écrit avec CH et en un mot. Cette semaine dans Alter Echo, une présentation du collectif Santiquet, une bande de jeunes qui milite de façon pratique pour la gratuité des transports en commun et qui a fait sensation la semaine dernière au Palais de Justice. Nous parlerons aussi bien évidemment de la nouvelle guerre de l'Amérique, comme l'appelle CNN, et nous verrons de quelle façon en parlent les médias. Et enfin, un invité dans cette deuxième émission de la saison, il s'agit de Jean-Jacques Jespers, le premier médiateur de la RTBF, même si ce n'est pas la dénomination exacte. Nous en parlerons dans la seconde partie de l'émission. Jean-Jacques Jespers, bonsoir.
Bonsoir.
Et n'hésitez pas, si vous le sentez, à intervenir au cours de l'émission pour donner des commentaires sur ce qui vous chante.
Ça va.
Vendredi dernier, le palais de justice était en ébullition. Une présumée association de malfaiteurs passait devant le tribunal des référés, soutenue par une bonne centaine de sympathisants. Les accusés, qui étaient au nombre de 18, étaient habillés en mafieux siciliens. Lunettes noires, borsalino et costume trois pièces pour les hommes, perles et boas pour les femmes. En fait d'association de malfaiteurs, il s'agissait tout simplement du collectif Santiquet, une association de fait qui énerve beaucoup la STIB. Pour le collectif, c'est toute la politique de la ville qui devrait être revue, à commencer par les transports en commun. Afin de lancer le débat sur la gratuité et sur plein d'autres sujets, plutôt que de discuter interminablement, le collectif agit. Concrètement, il distribue ses propres titres de transport gratuits, il colle et distribue des affiches et des tracts sur le sujet pour susciter le débat dans le métro, et surtout, il organise des actions dites « free zone » lors desquelles il repère les endroits où se trouvent les contrôleurs pour en informer le public et définir ainsi quelles sont à ce moment-là les « free zones » sans contrôle, les zones sans contrôle. Là, normalement, j'aurais dû vous diffuser une interview avec David, qui est un membre du collectif, qui nous aurait expliqué de quoi il retourne et quelles sont les pratiques du collectif et parler un peu du procès. Mais problème de mini-disque, on n'est jamais maître de la technique. Donc, je pense que le son est récupérable. Je vous diffuserai, promis, cette interview la semaine prochaine. Mais là, hélas, je ne peux pas le faire. Cependant, je peux dire quelques mots à propos du procès. Devant le tribunal, les avocats du collectif ont eu beau jeu de balayer les arguments de la STIB. Deux petits exemples. Tout d'abord, le caractère urgent de l'affaire. La STIB attaquait en effet devant le tribunal des référés, ce qui suppose une extrême urgence de l'affaire. Or, les opérations Free Zone dont il était question remontaient au mois de mars et avril, et la STIB n'avait introduit son action qu'au mois d'août. En matière d'urgence, on a vu mieux. De plus, la STIB estimait que le caractère urgent de l'affaire était renforcé par l'hémorragie financière que représenteraient les actions du collectif. En tout et pour tout, la STIB évalue les dommages causés par les actions visées par la procédure à un peu plus de 27 000 francs, principalement pour le blocage d'un tram dont refusait de descendre un membre du collectif qui était en possession d'un titre de transport tout à fait valable. Il y avait aussi à noter 220 francs pour les 4 personnes qui voyageaient sans ticket. Les avocats du collectif ont comparé cette somme aux 16 milliards de frais totaux de la STIB pour l'an 2000 et soudain le terme d'hémorragie financière a un peu fait sourire dans toute la salle. Ce que la STIB exige donc, c'est que la justice interdise aux membres du collectif Santiquet notamment de prendre la parole ou de distribuer des tracts sur son réseau sous peine d'astreinte. Le verdict devrait tomber incessamment sous peu et on est évidemment très curieux de savoir si on aura encore le droit à l'avenir de débattre de la gratuité des transports tout en prenant le métro avec un ticket valable en poche. Je vous tiendrai évidemment au courant dans cette émission, notamment la semaine prochaine où je vous diffuserai donc, comme promis, la fameuse interview manquée.
Le 7 mars de l'année 1972, à 10h32 précis, le roi d'une petite belle fille éclatait sa cour d'applaudissements pervers. Olé! En attribuant humble participation à ce métro prolétaire, place de Brouckère. 723 ouvriers après le roi, manière l'appel, quoique non doré, et sans jour précis. Vous n'entendrez plus jamais parler d'eux, ni de l'eau bleue, ni de leur nom de Dieu. Ils sont la concrétisation de la matérialisation moderne. Moderne métro remplace l'auto, qui remplace la moto, qui remplace le vélo. Et bientôt, aussitôt que le métro devient roux, il faut sortir les chevaux. Mars de l'année 1972, à 10h32 précis. Le roi d'une petite pelle fit éclater sa cour d'applaudissements pervers. Le 7 mars de l'année 1972, à 10h32 précis. Le roi d'une petite pelle creusa la tombe de Bruxelles.
La nouvelle guerre de l'Amérique, sujet inépuisable s'il en est. Précisons que cette formulation est de CNN. Personnellement, je ne me permettrai jamais d'identifier les États-Unis à tout le continent américain. En tout cas, impossible de faire à chaud une analyse exhaustive de tout ce qui a été publié ou raconté dans la presse. Le volume est vraiment trop énorme. Je vais donc me contenter de quelques touches impressionnistes au hasard et d'un article ou d'une séquence glanée ça ou là. De toute façon, je sais bien que vous ne m'en voudrez pas puisque je suis prêt à parier que tout comme moi, vous frôlez l'indigestion. Pour commencer, on pouvait s'y attendre. Avec le retour de la guerre, c'est aussi le vocabulaire guerrier moderne qui revient en force, en particulier les fameuses frappes chirurgicales et les dommages collatéraux. Malgré toutes les expériences passées en Irak et au Kosovo, notamment, la presse ne semble pas avoir tiré des masses d'enseignements de ces intoxications du langage. Visiblement, les médias avalent toujours la plus grande partie de la propagande guerrière américaine, comme par exemple Le Soir, qui n'hésite pas à se vautrer dans les contradictions. Dans un seul et même article, on lit par exemple d'une part que les riverains des quartiers de Kaboul qui avaient été touchés lors du dernier bombardement quittaient leurs habitations le lendemain matin, redoutant de nouvelles frappes, et d'autre part qu'ils étaient rassurés que ces mêmes bombardements n'aient pas visé les populations civiles. Le même jour, Le Soir annonçait sans même utiliser le conditionnel que les bombardements avaient touché 2 à 3 douzaines de cibles militaires, dont des camps d'entraînement terroristes et des installations de missiles sol-air ainsi que des aéroports. Tout cela sans aucune preuve. Évidemment, lorsque ce sont les Afghans qui annoncent un nombre de victimes, quel qu'il soit, on prend bien soin de préciser qu'il faut prendre ces informations avec des pincettes. Sur France 2, même topo, on parle de frappe chirurgicale et par conséquent, lorsqu'on diffuse les images des ruines de ce qui était manifestement une habitation, on précise tout de suite qu'il s'agit là d'images soigneusement sélectionnées par les Afghans. Du coup, il ne faudrait pas croire ce que l'on voit. Par contre, je n'ai jamais entendu les mêmes mises en garde lorsque la même chaîne diffuse abondamment des images soigneusement sélectionnées par les Américains. Même naïveté coupable du côté de la VRT, où la présentatrice a tenu à préciser que comme il n'y a aucun journaliste occidental en Afghanistan, il y a très peu d'informations indépendantes en provenance de ce pays. Tout le monde sait bien que indépendant et occidental sont synonymes, surtout en temps de guerre. La seule note critique sur les frappes chirurgicales, je l'ai trouvée dans De Morgan. Et encore, ce n'était pas bien méchant, mais ça avait le mérite de remettre certaines pendules à l'heure. De l'aveu même d'un militaire, 30% des missiles dits intelligents avaient complètement manqué leur cible lors de la guerre du Kosovo. Et des 70% qui sont arrivés à bon port, seulement la moitié a eu la marge d'erreur escomptée de 3 mètres. On apprend tout ça dans De Morgan. Malgré ces chiffres et malgré aussi le fait que les bombardements actuels aient anéanti une agence de déminage des Nations Unies à Kaboul, tuant 4 civils, l'ensemble de la presse feint encore de croire au caractère ciblé de l'attaque anglo-américaine. Mais ce ne sont pas que des bombes qui pleuvent sur le peuple afghan. Baby Bush a même annoncé que le peuple opprimé d'Afghanistan allait connaître la générosité de l'Amérique et de ses alliés, puisque la campagne militaire comporte aussi un volet humanitaire. Ajoutant le cynisme à l'arrogance, les Américains larguent en effet des rations humanitaires sur le territoire afghan. Là, par contre, la Libre Belgique précise le prix des largages, et encore c'est vague, 25 millions de dollars pour 37 500 colis alimentaires, ce qui fait quand même 30 000 francs belges le colis, composé de rations végétariennes, respect des coutumes oblige, d'instructions et de médicaments. On aimerait bien avoir les mêmes précisions budgétaires pour les largages de bombes, mais ça risquerait d'écœurer le lecteur. La Libre Belgique précise encore, sans autre commentaire et surtout sans rire, que les colis portent une inscription précisant qu'il s'agit là du cadeau alimentaire du peuple des États-Unis d'Amérique. Comble de l'ethnocentrisme, cette inscription est en anglais, en français et en espagnol et destinée à un peuple qui est majoritairement analphabète dans sa propre langue. J'espère vivement que les Afghans ne trouveront jamais ces colis éparpillés dans la montagne. J'aurais trop honte pour le peuple américain. On apprend enfin, sans autre précision, que Donald Rumsfeld, le ministre américain de la Défense, a annoncé que ces vols humanitaires étaient un succès. Je ne sais pas à quoi ça se mesure, peut-être qu'il parlait simplement de l'impact médiatique. En effet, vu le côté totalement insuffisant et inefficace de l'opération, on ne peut y soupçonner autre chose qu'une opération médiatique un peu transparente. C'était d'ailleurs aussi l'avis, dimanche soir à la RTBF, de Nina Bashkatov, la spécialiste RTBN de l'Orient. Pour elle, c'est effectivement totalement inefficace et il faut y voir, je cite, une opération non pas de propagande, mais de participation à la guerre de l'information. Une nuance qui vaut son pesant d'or, même si elle est complètement obscure. Justement, la guerre de l'information, parlons-en, elle a éclaté dans toute sa splendeur et on n'a pas fini d'en parler. Figurez-vous que CNN n'a plus le monopole de l'information mondiale en continu. On a effectivement beaucoup parlé ces derniers jours d'Al Jazeera, surnommée la CNN arabe, sans jamais pourtant en expliquer la genèse. Ça lui donnerait sans doute trop de crédit. Seule exception à ma connaissance, un article très positif dans le Soir d'aujourd'hui. En fait, Al Jazeera est né des cendres de la BBC arabe, une télévision du service mondial de la BBC, réputée pour son sérieux. Le satellite qu'utilisait cette télévision appartenait à la famille royale saoudienne, grande alliée de l'Occident, dont nous avions parlé la semaine dernière. Un jour, la BBC a cependant eu le malheur de laisser la parole sur cette antenne à un opposant saoudien et le lendemain, le satellite était coupé. Suite à cet incident, l'émir du Qatar a décidé de supprimer son ministère de l'information et de lancer simultanément Al Jazeera, rachetant au passage tous les journalistes devenus oisifs à la BBC. On ne peut donc pas dire qu'Al Jazeera a engagé des propagandistes intégristes, d'autant plus que cette CNN arabe dérange pas mal de dirigeants et brise des tabous dans certains pays de la région. À tel point qu'au début, les Américains étaient très enthousiastes de voir naître dans les pays arabes une information plus équilibrée que celle qui provient des médias étatiques. Seulement, en cas de guerre, CNN n'a plus l'exclusivité. On l'a vu notamment avec les images du speech de Ben Laden. Et du coup, les Américains ne contrôlent plus l'information. Colin Powell, le ministre des Affaires étrangères américain, a même été jusqu'à demander à l'émir du Qatar, la semaine dernière, d'intervenir auprès d'Al Jazeera pour que sa couverture soit plus favorable aux États-Unis. On comprend tout de suite mieux la façon dont les Américains conçoivent la liberté de la presse. Aux États-Unis eux-mêmes, c'est d'ailleurs encore pire à en croire le correspondant du Morgan à New York. Dans un volumineux article d'humeur, il décrivait mardi l'ambiance qui règne au pays de l'oncle Sam. Quelques exemples en vrac, trois pompiers de Miami qui avaient refusé de décorer leur camion de drapeau étoilé ont été suspendus sur le champ pour une période indéterminée. Dans l'Indiana, c'est un homme qui brûlait un drapeau dans son jardin qui a été dénoncé par son voisin et promptement emprisonné. Dans la presse, même son de cloche, un chroniqueur de l'Oregon qui avait écrit dans son journal que le jour des attentats, George Bush s'était caché dans un trou au Nebraska, a été viré aussi sec. Même sort pour un éditorialiste qui avait intitulé son article « Bush a mal conduit les USA ». Le lendemain, le journal se confondait en excuses à la une. Dans un commentaire à la radio, un animateur a osé estimer que les kamikazes qui se jettent contre des immeubles sont moins lâches que des militaires qui bombardent à haute altitude ou qui envoient des missiles à 3 000 km de distance. Les sponsors de l'émission se sont aussitôt retirés. L'animateur a été forcé à faire son mea culpa, mais aussi et surtout, le porte-parole de la Maison-Blanche a mis tout le monde en garde. Je cite: Les Américains doivent faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Message reçu en tout cas par les députés américains qui ont voté sans débat une carte blanche à George Bush pour effectuer des essais pour son bouclier antimissile. Comme le souligne le correspondant du Morgan, la démocratie ne va pas très bien en ce moment aux États-Unis et un climat étouffant et totalitaire menace de s'y installer. Cela dit, chez nous, ce n'est pas toujours la joie non plus. En France, comme ça avait été le cas aux États-Unis, après les attentats, plusieurs stations de radio ont décidé de censurer certaines chansons jugées équivoques et provocatrices. Vous avouerez vous-même que l'hôtesse de l'air de Jacques Dutronc, tombée du ciel de Jacques Higelin, comme Un avion sans aile de Charlie Couture ou encore Le grand incendie. Sur le nouvel album de Noir Désir sont des chansons tout à fait inadaptées pour un public sensible en ce moment. Dans le monde politique, on ressent d'ailleurs une autocensure un peu similaire. Dimanche dernier, lors de la manifestation contre la guerre à Bruxelles, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs mandataires écologistes, qu'ils soient flamands ou francophones. Tous tenaient à peu près le même discours que Jeff Tavernier, le chef de groupe Agalev, dans une interview publiée hier dans The Morgen. Il commence par citer les trois conditions des Verts pour accorder un soutien belge à l'offensive américaine. Les pays membres de l'OTAN doivent garder un droit de réserve individuel. Il ne peut pas y avoir de mission de combat et les attaques ne peuvent être dirigées que contre les capacités des terroristes à commettre des attentats. Pour lui, cette dernière condition est remplie, même s'il ajoute au passage que les objectifs militaires mais non terroristes sont finalement acceptables à ses yeux. Tant pis pour les dommages collatéraux. Pour ce qui est du droit de réserve des pays membres de l'OTAN, l'article 5 du traité de l'OTAN a été mis en œuvre et il ne prévoit pas ce droit de réserve. Il parle de solidarité, point à la ligne. Dernière question du journaliste. Et si on demande la participation des militaires belges, selon les conditions énumérées par Jeff Tavernier, notre ami écolo aurait dû répondre « Ah non, pas ça ». Mais non, il a répondu que dans ce cas, il faudrait définir les règles du jeu. Même chose pour mes interlocuteurs de ce week-end, offusqués lorsqu'il s'agit des principes, mais terriblement évasifs quand on leur demande comment ils vont réagir concrètement. C'est le moment de lancer la question concours de la semaine. Qui c'est qui va se planter aux prochaines élections? Si vous connaissez la réponse, envoyez-la à l'attention du groupe écolo Chambre des représentants de Place de la Nation à 1000 Bruxelles. Reste enfin à parler des répercussions boursières de la guerre. Premier effet, la bourse de Wall Street a prouvé que les émotions ne lui sont pas étrangères en respectant lundi matin à l'ouverture une minute de silence. Non pas pour les victimes des bombardements américains, ni à la mémoire de la défunte liberté d'expression aux États-Unis, mais bien pour les vaillants soldats engagés au péril de leur vie dans la défense de la nation. On me l'aurait inventé, j'aurais trouvé ça exagéré. Pour ce qui est des tendances, le bilan est partagé. Selon un analyste financier cité dans Le Soir, les problèmes de l'économie américaine, qui est au bord de la récession, vont être aggravés par l'entrée en guerre des États-Unis. Par contre, tout n'est pas perdu, puisque lundi, les actions du secteur de l'armement profitaient du début de la guerre, plus 5,20% pour Raytheon, qui fabrique des missiles et des systèmes de guidage, et plus 3,65% pour Lockheed, marchand d'avions de guerre. Par contre, je ne suis pas au courant des cours de Halliburton, la société dont le vice-président américain Dick Cheney était le dirigeant ces dernières années et qui assure des services logistiques pour les bases militaires américaines au Moyen-Orient. Cheney a quitté son boulot avant la campagne présidentielle, mais il détenait encore récemment des stock-options de son ancienne boîte pour une valeur d'environ 1,5 milliard de francs belges. À mon avis, il va les garder encore quelques temps. Pour terminer sur les vaillants soldats qui ont bénéficié d'une minute de silence à Wall Street, une petite parenthèse sur le speech hallucinant de George Bush après le début de la guerre. Je vous en cite deux petits extraits. Nous demandons beaucoup de choses à ceux qui portent l'uniforme. Nous leur demandons de laisser ce qu'ils aiment, de parcourir de grandes distances, de prendre le risque d'être blessés et peut-être même de faire le sacrifice suprême pour la patrie. Ils sont décidés, ils sont honorables. Récemment, j'ai reçu une lettre émouvante qui en dit très long sur notre pays en ces temps difficiles. Une lettre d'une petite fille de 4e année dont le père sert dans l'armée. « Autant je ne veux pas voir partir mon père, écrit-elle, autant je suis prête à vous l'offrir. Voilà un précieux cadeau, le plus grand cadeau qui existe. Cette petite fille comprend ce que représente l'Amérique. » Émouvant, non? Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose à modifier pour que ce speech puisse servir à un dirigeant du Hamas ou à Ben Laden lui-même pour s'adresser à des kamikazes prêts au grand départ. Pourtant, tout le monde trouve ça normal. Au lendemain des attentats, De Morgan avait jugé utile d'aller demander à un psy quel est le profil psychologique du kamikaze type. Évidemment, le mec est censé avoir une très basse estime de lui-même, être instable, etc. Plein de caractéristiques négatives. Par contre, le pilote américain prêt à mourir est un héros et un exemple. Personnellement, je préfère rester gentiment entre ces deux extrêmes et mourir de ma belle mort.
Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que le gendarme s'était pointé chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés, et puis les militaires, les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi, et qui peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con. Je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas. Je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares. D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard. Non c'est pas du Ricard. Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils n'auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux. Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt. J'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut. Plus souvent qu'il ne faut. Surtout ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant, je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Quand les Russes, les Ricains font péter la planète, moi, j'aurai l'air malin avec ma bicyclette, mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer.
Et nous voilà donc avec notre invité de la soirée, Jean-Jacques Gespers, le médiateur entre guillemets de la RTBF. Bonsoir Jean-Jacques Gespers. On parlera de cette histoire de guillemets dans 5 minutes, mais peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour ceux qui ont vécu dans une caverne ces 31 dernières années, vous pouvez commencer par nous retracer un petit peu votre parcours professionnel.
Bah effectivement, ça fait 31 ans, je viens de me rendre compte que je travaille dans les médias, plus exactement à la RTBF, qui s'appelait encore la RTB quand j'y suis entré.
Vous avez connu la place Flaget ?
J'ai connu la place Flaget, oui.
Ça ne vous rajeunit pas.
C'était avant la guerre de sécession. Et donc, j'ai fait un peu tous les métiers. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai fait du reportage, de la présentation, de l'édition, du magazine. J'ai même présenté un jeu à la télé qui s'appelait Music Quiz, qui était question-réponse sur la musique classique. Qu'est-ce que j'ai encore fait?
En tout cas,
j'ai un petit peu donné cours à l'université aussi, pendant 20 ans. C'est la 21e année aussi.
En tout cas, on se souvient surtout de vous pour la présentation du JT et plus récemment aussi pour l'émission Autant Savoir.
Jour de guerre,
Et Jour de guerre, oui, effectivement, c'était une de vos grandes apparitions.
voilà.
Tout ça vous a permis de, quelque part, acquérir un certain respect au sein de la RTBF et aussi au sein du public. Et c'est peut-être une des raisons qui vous ont fait élire médiateur. En fait, ça se passait sur présentation de dossier, c'est bien ça, un appel à projet?
Ah, rassurez-vous, il n'y a pas eu d'élection, on n'en est pas encore là. Non, il y a eu un appel à projet sur l'intranet donc de la RTBF, disant voilà, on va faire une nouvelle émission de médiation, de contact avec le public. Si vous voulez présenter un projet, ben, présentez-le. Il n'y a que quatre personnes qui se sont présentées, il n'y en a que deux sur les quatre qui avaient pris la peine de rédiger un projet. J'étais un de ces deux-là. Et
La concurrence n'a pas été
la
trop féroce.
concurrence n'a pas été trop féroce. Mais donc finalement, l'administrateur général m'a présenté au choix du conseil d'administration sur base du projet que j'avais rentré, donc c'est plutôt sympa.
Et quels étaient les desiderata, disons, l'énoncé de l'appel?
Il n'y avait pas beaucoup de précision en fait. L'émission devait être au moins mensuelle. Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'elle soit hebdomadaire parce qu'il faut créer une fidélisation et une fidélisation ne se crée pas. Avec une périodicité mensuelle. Et puis il fallait que ce soit une émission qui donne la parole, qui répercute les plaintes, les remarques, les observations du public et qui leur donne une réponse. Voilà, c'était à peu près tout. D'ailleurs, dans le nouveau contrat de gestion qui est en train d'être conclu, il n'est pas prévu de périodicité plus grande qu'une fois par mois. Donc la RTBF fait mieux que ce que lui impose le contrat de gestion. C'est quand même remarquable.
Présentez-nous l'émission. Alors, elle s'appelle Qu'en dites-vous? Elle passe à midi et demi le dimanche après Autant savoir. C'est un choix délibéré de votre part, ça?
Après mise au point, après mise au point.
Après mise au
Entre
point,
mise au
excusez-moi.
point et signé dimanche. C'est un choix délibéré, c'est-à-dire que vous savez, une place dans la grille, ça ne se choisit pas à la télévision, ça se discute éventuellement, ça se discute.
Mais il y avait une condition dans votre dossier, ça doit passer pas entre les news et le patinage artistique, façon de parler.
Moi, j'avais dit que ça doit passer à une heure où les gens qui sont intéressés par ce genre d'émission seront à l'écoute, et je pense que c'est plus ou moins le cas avec le créneau du dimanche midi. Mais c'est vrai qu'on pourrait espérer mieux. À cette heure-là, la RTBF ne fait jamais mieux que 18 à 19% de part de marché au maximum. Et l'audience absolue est assez faible parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent la télévision. Donc on a, disons, entre 100 et 150 000 téléspectateurs.
Vous auriez préféré quoi, par exemple, comme créneau?
Ah ben j'aurais préféré le prime time, évidemment, hein le premier rideau, mais je pense que ce n'est pas possible non plus.
Mais pour une émission de ce type, ce serait
Comme
étonnant.
ça dure que 12 minutes, on pourrait bien imaginer, puisqu'il y a bien Autant savoir qui fait 20 minutes à 8 heures, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a quand même un côté un peu nombrilique qui justifie qu'on ne la mette pas vraiment en prime time, mais un access prime time, par exemple, en deuxième rideau de soirée, ça aurait très bien pu convenir aussi.
Cette question d'audimat, au fond, d'abord, comment ça se passe? Question audimat après 5 émissions?
Ben voilà, je vous ai dit, hein, on est entre 100 et
Non, mais je veux dire,
120 000.
par exemple, est-ce qu'il y a une chute après mise au point, ou bien au contraire, ça remonte, tout le monde vient regarder, j'espère, ou.
En réalité, d'après ce que j'ai pu voir, il y a plutôt une augmentation constante et lente de l'audience, de l'auditoire, faut-il dire, à partir de 11h30, c'est-à-dire le début de mise au point, jusqu'à midi 45, c'est-à-dire le début de signé dimanche. Et puis là, ça se stabilise, ça augmente encore un petit peu jusqu'à 1h.
Alors la question c'est si jamais ça se passait très mal, question audimat, c'est-à-dire qu'il y aurait une chute au moment où vous prenez l'antenne, quelles seraient les conséquences? L'émission pourrait être mise en question ou bien elle est bétonnée pour un certain temps?
Je pense qu'on remettrait peut-être en question la case, mais on ne peut pas remettre en question le principe de l'émission. Peut-être qu'on me remettrait moi en question, ou qu'on remettrait la formule en question, mais le principe de l'émission de médiation, c'est-à-dire ce que j'ai défini tout à l'heure, ne peut pas être remis en question pour la bonne et simple raison qu'il est bétonné dans le contrat de gestion de la RTBF. C'est devenu une obligation contractuelle que
Au
la
moins
RTBF
mensuel,
a,
donc,
oui,
comme
au
vous le
moins
disiez.
mensuelle, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir maintenant faire machine arrière et dire qu'on repasse de. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Si au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que vraiment la matière manque pour continuer au rythme hebdomadaire, ce n'est pas tout à fait exclu qu'on change de périodicité, mais je ne pense pas.
Vous avez suffisamment de sujets en réserve.
En réserve, oui, on en a déjà quelques-uns en réserve. On essaye quand même de se ménager la possibilité de changer de sujet en dernière minute ou assez tard, parce qu'il se peut aussi qu'il y ait tout à coup, à propos d'un événement particulier, des réactions très spécifiques du public.
Mais on parlera du fond des émissions dans un instant. Juste encore un ou deux petits points de détail. Par exemple, un bon point pour la RTBF, il n'y a pas de page publicitaire, étonnamment, entre autant, décidément, entre mise au point et qu'en dites-vous? C'est vous qui avez exigé ça ou bien spontanément on vous a offert ça sur un plateau?
Non, mais c'était pas prévu. Disons que s'il avait fallu mettre une page publicitaire là, il aurait fallu ouvrir une page publicitaire supplémentaire qui n'existait pas auparavant. Ça aurait quand même été un peu fort, je trouve. Donc, comme c'est une émission assez courte, je pense que le directeur de la télévision, que la direction de la télévision n'a pas jugé utile de le faire. Vous savez qu'ils ont, il a quand même fait déjà des concessions à la publicité, enfin des concessions à l'information au préjudice de la publicité, puisque la RTBF est à peu près une des seules chaînes qui diffuse en continu un magazine d'information, l'hebdo, juste après le JT, sans coupure publicitaire. Et ça, c'est quand même, ça représente, d'après les estimations du directeur de la télévision, à peu près une perte de recettes de 10 millions. C'est quand même pas mal.
C'est pas mal, mais enfin, on est quand même sur le service public aussi, donc quelque part, ce n'est que normal. Encore une question technique, vous précisez, en tout cas, nous vous le précisez même vous-même, il y a aussi un bandeau qui défile en début d'émission pour préciser que l'émission est enregistrée dans les conditions du direct sans être en direct. D'abord, pourquoi elle n'est pas en direct et pourquoi préciser ça? Pourquoi est-ce que c'est important?
Alors, elle n'est pas en direct, et c'est peut-être parce qu'on est un petit peu déçu qu'elle ne soit pas en direct qu'on se croit obligé de mettre ce bandeau. Enfin, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la première. Elle n'est pas en direct pour une raison financière. C'est-à-dire que quand on est une émission en direct entre deux autres émissions en direct, on est obligé de travailler avec une autre équipe. On ne peut pas travailler avec l'équipe qui fait le direct d'avant ou avec l'équipe qui fait le direct d'après. Ce n'est pas possible. Autrement dit, pour faire 12 minutes d'émission, il aurait fallu engager, enfin, ou faire venir, en tout cas, le dimanche, qui plus est, donc avec un salaire plus élevé, un chef technicien, un mixeur, trois ou quatre caméramen, cinq ou six éclairagistes, deux régisseurs, enfin, une équipe de studio, ça fait une quinzaine de personnes. Et comme le règlement de travail prévoit qu'on ne peut pas être payé moins d'une demi-journée, même si on ne travaille qu'une heure, vous imaginez tout de suite que ça représentait un investissement considérable pour une télévision qui a du mal à nouer les deux bouts. Donc, on avait d'abord essayé de le faire avec l'équipe de l'émission qui précédait, qui poursuivait son travail, ou avec l'équipe de l'émission qui suivait, qui venait un peu plus tôt. Mais le problème, c'était aussi la transition. Justement, comme il n'y a pas de pub entre mise au point et qu'en dites-vous, comme il n'y a que 3 minutes entre, qu'en dites-vous, et signé dimanche, ça devenait très très difficile de changer les décors de place, etc., de changer les caméras, de bouger, de régler l'éclairage. Et donc on a préféré le faire en différé, mais dans les conditions du direct. Pourquoi? Parce que comme c'est une émission dans laquelle les téléspectateurs ont la parole, et qui est une émission de mise en question, quand même, de mise en cause de la RTBF, mais que c'est aussi la RTBF qui produit cette émission et qui la diffuse, il fallait d'une certaine manière compenser ce fait que la RTBF est dans cette affaire un peu juge et partie en offrant une sorte de garantie de non-manipulation au téléspectateur, en lui disant, vous savez, même si on l'avait voulu, ben, on n'aurait pas pu donner plus la parole ou manipuler les réponses de la
Oui, ça
RTBF.
garantit en gros que si un téléspectateur qui vient sur le plateau insulte je ne sais
Voilà.
qui, ça reste.
Ça
C'est à vous
restera.
de le rattraper, c'est pas coupable, quoi.
Voilà.
Justement, il y a ce principe du téléspectateur qui vient sur le plateau. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si un téléspectateur offre une réflexion très intéressante, qu'il est le seul à le faire, mais il n'a pas du tout envie de venir montrer son visage sur le plateau, ou alors il ne sait pas s'exprimer comme ça devant des caméras. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? D'abord, pourquoi ce principe?
Le principe, c'était surtout pour qu'il y ait une sorte de présence physique et manifeste du téléspectateur. Enfin, c'est un peu une métonymie, hein, c'est le téléspectateur symbolique, mais enfin, qu'il y ait quand même une présence du téléspectateur à l'antenne et que on ne puisse pas de nouveau dire qu'on a, je sais pas moi, coupé dans le courrier ou qu'on a gardé que les trois ou quatre phrases qui convenaient
Ou
dans
bien
le...
qu'on invente des lettres
ou
de
qu'on
spectateurs comme
invente
on le
des
fait dans la
lettres
presse.
ou qu'on invente des lettres de téléspectateurs. Donc c'est aussi une manière de certifier qu'il y a bien des gens qui écrivent et qu'il y a bien des gens qui ont quelque chose à dire. La preuve, c'est qu'ils le disent. Mais on a prévu des solutions de remplacement si effectivement des personnes ne peuvent absolument pas venir ou ne veulent absolument pas venir. La première possibilité, c'est d'aller éventuellement chez eux, les interviewer. La deuxième possibilité, celle qu'on utilise d'ailleurs, c'est de reproduire simplement à l'antenne le texte de leur courriel ou de leur courrier, comme le fait d'ailleurs, comme le faisait en tout cas, ou comme le fait encore, je crois, l'émission de France 2, l'hebdo du Médiateur. Si c'est la seule façon
Mais en
de
général,
s'en
ça pose
sortir.
pas de problème, apparemment. Les gens
Mais
viennent facilement.
j'étais un peu inquiet au départ parce que je sais qu'on est en Belgique et que les gens ne sont pas très communicatifs, ont parfois sont assez timides, hésitent parfois à se montrer. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu de peine à trouver quelqu'un. Il y a toujours eu quelqu'un.
Pour aborder le fond des émissions, certaines personnes ont un peu été étonnées par la première émission. On s'attendait à un clone quelque part du Dimanche du Médiateur, je pense que ça s'appelle
L'hebdo du
l'hebdo du
médiateur,
Médiateur sur France 2, qui parle lui que d'informations. C'est un choix délibéré. Et là, surprise, on tombe sur un Candide Vous qui parlait de Pour la gloire et du fait qu'il n'y avait pas assez de chansons françaises et que le jury était peut-être influencé de telle ou telle façon. C'est vous aussi qui avez fait ce choix de ne pas vous en tenir strictement à l'information, mais d'englober toute la RTBF?
Non, ça fait partie du cahier de charge. C'est-à-dire que c'est ça la différence de notre émission avec l'hebdo du Médiateur, c'est qu'on couvre tout le terrain des programmes de la RTBF, quels qu'ils
Télévision
soient.
ou bien...
En principe, télévision, mais si on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a vraiment un gros point qui suscite énormément de réactions à la radio, ben on fera venir quelqu'un de la radio et on en discutera. Le problème, c'est qu'évidemment, on fait de la télévision. Il y a aussi cet aspect qui est le paradoxe constant de la télévision, c'est que quoi qu'elle fasse, elle fait toujours de la télévision. Hein, l'information presse écrite, c'est de l'information. L'information en télévision, c'est de la télévision. Et donc, on est obligé de passer par ces fourches caudines, parce que je pense qu'en plus, c'est assez normal. Donc, on essaye aussi de référer à l'objet du conflit, à l'objet de la controverse, et donc de montrer, de faire entendre et de montrer ce qui a posé problème, ou de resituer le débat de cette façon-là. Et donc en radio, ça risque de poser un petit peu
D'un autre
de
côté, on ne le sait pas toujours, mais en radio, il existe une telle émission, mais qui est mensuelle, je pense.
Alors en radio, il existe une émission un peu dans le même genre, qui est mensuelle, qui diffusait le dernier mardi du mois dans toute autre chose entre 11h et midi. Là, c'est la responsable du service de médiation, proprement dit, de la RTBF, qui s'appelle Françoise de Thiers, qui encore une fois n'est pas vraiment un service de médiation, mais enfin, on pourra en parler si vous voulez, qui vient simplement faire état du courrier qu'elle a reçu, répercuter les lettres reçues, donner des réponses, indiquer où on en est dans le suivi de certains dossiers, etc. Mais ça dure 1 heure, là.
Alors, comme je le disais, il y a eu 5 émissions. Donc, la première traitait de Pour la gloire. Donc, c'est pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une émission où des talents, en tout cas des talents in-spé, viennent s'essayer à pousser la chansonnette devant un jury. La deuxième émission est intervenue peu après les attentats. Donc, vous avez parlé de la façon dont était traitée cette question
Dont l'invité avait couvert le
et de la
l'enseignement.
rediffusion abondante des images, etc. La troisième parlait du parrainage par des marques d'alcool. En fait, il n'y a pas vraiment de publicité, je crois,
Si,
pour...
si, si, si.
Il y a de la vraie
Il y a
publicité
de la vraie
aussi,
publicité
parce qu'il y a beaucoup de parrainage, mais oui.
pour autant que la boisson alcoolisée titre moins de 20 degrés, de 20%, il peut y avoir de la publicité, donc vraiment des annonces publicitaires,
Ouais, et ça
mais il
avait
y a
donc
toute une
choqué.
série de règles.
Et ça avait donc choqué un monsieur
En fait, il était surtout choqué par le fait que on banalise la consommation de l'alcool, que ce soit pas tellement sous la forme de publicité, parce qu'au fond, là, c'est très clair, c'est de la publicité, c'est entre deux petites jingles publicité, mais c'était surtout dans les programmes, dans l'info et dans le commentaire sportif et dans tout ce qui tourne autour du sport. Et donc, Il disait, une télévision de service public devrait se rendre compte que ça banalise la consommation d'alcool, qui est quand même une des choses socialement les plus dangereuses, quoi.
Et en plus, le monsieur en question traitait des alcooliques, donc il
Oui,
savait de quoi il parlait.
voilà.
Mais ça a tourné quand même aussi sur la publicité pour
Sur
l'alcool
la
à la
pub, oui.
télévision. La quatrième émission parlait de sport. Ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais il me semble que l'angle était assez intéressant. C'était donc quelqu'un qui se plaignait du fait que les petits sports peu connus, disons, et en tout cas peu médiatisés, passent pas du tout, presque pas à l'RTBF, alors que les grands sports sont vraiment omniprésents, on nous les impose constamment. Et en fait, la différence entre les deux aussi, financière, c'est que pour les petits sports, on leur demande de trouver des sponsors pour qu'ils puissent passer à l'antenne, tandis que les grands sports, la RTBF se ruine. Par exemple, le football, ça va dans les centaines, les dizaines ou les centaines de millions pour pouvoir retransmettre.
Oui, c'est tout à fait ça. Et bah, c'est évidemment, ça n'a pas été dit aussi clairement que ça, mais c'est clair que c'est une logique de spectacle et pas du tout une logique de sport. La RTBF ne fait pas du sport, elle ne diffuse pas du sport, elle diffuse des spectacles qui sont par hasard des spectacles sportifs, mais qui sont surtout des spectacles qui attirent énormément d'auditoires et qui donc attirent énormément d'annonceurs. Donc c'est vrai que ça coûte très cher les droits de reproduction, les droits de transmission de certains matchs ou les droits de retransmission. De la Formule 1 ou du cyclisme, mais c'est en général compensé, sinon même plus, par les recettes publicitaires supplémentaires qu'on peut faire grâce à l'auditoire supplémentaire qu'on s'attire de cette façon-là. Donc voilà, c'est simplement du business, quoi.
Et puis donc la dernière émission m'a fait plaisir, même si je ne l'ai pas vue, je vous l'avoue. Il s'agissait de Coup de film que j'ai toujours trouvé une émission c'est même pas du public reportage, c'est carrément de la pub, je dirais déguisée. C'est finalement les distributeurs qui présentent les distributeurs de films de cinéma qui présentent leurs produits chaque semaine. J'ai toujours trouvé ça un peu affligeant. Quelle était la plainte exacte du
Eh
téléspectateur?
bien, c'est un téléspectateur qui nous avait écrit en disant, moi, je vois cette émission, bon, très bien, mais j'aimerais savoir ce que c'est exactement et qu'on me dise, qu'on me mette une étiquette dessus, qu'on me dise, est-ce que c'est de la publicité, est-ce que c'est une émission de la RTBF, produite par la RTBF et dont elle assume entièrement la responsabilité, ou est-ce que c'est du public reportage, comme vous dites? Et ce qui est amusant, c'est que, enfin, ce qui est amusant, ce qui est remarquable, notable, c'est qu'à l'issue de la discussion, parce qu'on ne parlait pas que de ça, on parlait aussi d'autres émissions qui sont cofinancées avec des partenaires extérieurs, en demandant ben, quelle est la contrepartie, au fond, que ces partenaires extérieurs demandent ou qu'ils obtiennent. À l'issue de la discussion, le directeur de la télévision qui était sur le plateau a dit, bon, ben, effectivement, on va mettre quelque chose, on va indiquer que c'est réalisé avec les distributeurs
Donc
parce
on
que
a trouvé quelque part une solution
oui,
sur le moment.
voilà.
Et
Donc ça c'est le modèle même que je poursuis parfois avec beaucoup de difficultés, mais c'est la solution la meilleure qu'on puisse trouver. C'est-à-dire qu'à l'issue du débat, ben, il y a une espèce de porte de sortie, de proposition de
Un
solution.
happy end, quoi.
Un happy end, voilà.
Et il y a déjà eu un coup de film depuis lors?
Non, non, non.
Parce que ce qui serait intéressant, c'est de savoir si cette précision, donc
Ah
ce
ben
sont
c'est
les...
ce soir au fond.
Ah bah voilà,
En ce moment même, tiens, à peu près.
Donc, quittez votre radio et allumez tout de suite votre télévision. Parce que ce qui serait intéressant de voir, c'est s'ils diffusent cette précision dans le générique de début ou dans le générique de fin. Ce qui,
Oui.
à mon avis, change quand même pas mal de choses.
Oui, mais enfin bon, je crois que personne n'est dupe non plus. Les gens se voient bien que ce sont des bandes de lancement, que ce ne sont pas des
Non,
extraits.
mais si personne n'est dupe, c'est pas la peine de mettre quoi que ce
Non,
soit.
mais je veux
Donc,
dire,
si on
personne.
met quelque chose, c'est que certaines personnes sont dupes. Donc, si certaines personnes sont dupes, c'est impérativement en début d'émission qu'il faudrait mettre l'avertissement.
Oui, sans doute, mais je veux dire, c'est très évident, et d'ailleurs, ça a été dit dans l'émission, il ne s'agit pas de critiquer les films. C'est contractuellement interdit par l'accord qui a été passé avec les distributeurs que dans cette émission-là, on ne fait pas de la critique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les distributeurs de films imposent non seulement aux télévisions, mais aussi aux journaux, des conditions terribles. Font du chantage et disent si vous critiquez nos films de manière trop systématique, on ne passe plus d'annonces chez vous, on ne fait plus de pub. Ils ont déjà fait la grève de la pub dans le journal Le Soir, hein, il y a quelques années. Et donc, il y a eu une espèce de négociation un peu d'arrière-café à Catane ou à Palerme qui s'est déroulée avec les distributeurs. En disant, bon, allez, les distributeurs ont dit, bon, on veut bien que vous fassiez une émission critique, un savoir télécinéma, où on parle du cinéma, où on en dit parfois du mal, parfois du bien.
Ça arrive,
Oui.
effectivement.
Mais alors, il faut que vous nous donniez en échange, en quelque sorte, une espèce de vitrine qui est un peu l'équivalent de la page cinéma de la Belgique, où on donne tous les programmes sans faire le moindre commentaire et d'annoncer les sorties. Voilà.
D'accord, mais quelque part, c'est très ambigu pour la RTBF de faire ça sans préciser de quoi il s'agit. Donc
Absolument.
ce sera fait, mais on ne sait pas encore selon quel mode.
Ben, on le surveille en tout cas, puisqu'on s'est engagé, et je pense le faire bientôt, on s'est engagé à faire régulièrement, une fois tous les 2 mois, par exemple, une espèce d'émission bilan où on demanderait
Un suivi,
un
ok,
suivi,
ouais.
où on poserait la question, bon voilà, telle émission, on a dit ça, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, etc.
Oui, ça c'est effectivement une bonne chose. Justement, en repassant ces 5 émissions comme ça, on se rend compte que les 3 dernières émissions parlaient de questions de financement à l'RTB. Il y a eu une critique sur l'alcool, la publicité pour l'alcool à l'RTBF. Il y a eu le fait des sponsors du sport et enfin, c'était encore une question d'argent. Puis cette affaire de coup de film, ça fait trois émissions qui chatouillent un peu la RTBF sur le côté financier. Ça ne pose aucun problème nulle part.
Oh ben je ne dirais pas que ça a été accueilli avec des sauts, des bonds d'enthousiasme. Quand j'ai dit au directeur de la télévision, voilà, ben il faut que tu viennes expliquer les conditions de production de coup de film. Mais je dois reconnaître que en général, la perspective de venir s'expliquer est accueillie avec assez bien d'ouverture d'esprit. Il n'y a pas de tentative de biaiser. Enfin bon, ils disent ce qu'ils veulent, évidemment, hein, sur le plateau, à moi ou à l'auditeur présent, au téléspectateur présent, de remettre un petit peu les pendules à l'heure si c'est nécessaire. Mais il n'y a pas de réticence à venir, en tout cas. Peut-être que ça viendra
Mais vous
si.
risquez pas de voir débarquer un jour les comptables qui vont venir vous dire, vous foutez notre sponsoring en l'air et nos sources de
Non,
financement.
ce qu'il y a eu, par exemple, c'est quand on a parlé de la publicité pour l'alcool, une certaine inquiétude de la part de la régie de publicité en disant, vous savez, on a des annonceurs extrêmement susceptibles, ils n'aiment pas qu'on cite leur nom, qu'on cite les marques, parce qu'ils n'aiment pas
Oui,
être
vous aviez fait
impliqués
un
dans
petit
une
montage,
polémique.
effectivement, avec
Oui,
toutes les pubs et les
voilà.
parrainages.
Voilà. J'ai dit, écoutez, on verra bien. On verra bien, mais jusqu'à présent, c'est à peu près la seule remarque, disons, un peu inquiète ou un peu de mauvaise humeur que j'ai
Ouais,
rencontrée.
donc vous êtes globalement satisfait de votre marge de manœuvre.
Ben, on verra, hein, on verra. Quand on commencera à toucher à d'autres sujets, je ne sais pas.
Quand on repasse donc la séquence des 5 émissions, on se rend compte que il n'y a qu'une seule, jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule émission qui parlait de l'info à l'RTBF et de l'actualité. Vous, en tant que journaliste, ça vous manque pas?
Bien, je dois vous dire que ça va changer parce qu'on va avoir 2 ou 3 émissions dans les semaines qui viennent qui
Surtout avec le
vont,
contexte actuel, en plus,
surtout
c'est un
avec
peu
le contexte
étonnant, quoi.
actuel. Oui. Mais ça m'embête et en même temps ça ne m'embête pas parce que je pense que malheureusement, mais enfin c'est la vérité, l'information ne représente que 15% du temps d'antenne à la télévision.
Et elle représente
Et
combien de pourcents des réactions? Ça aussi, c'est une question.
elle représente beaucoup de réactions en termes de commentaires sur le fond, c'est-à-dire de
Oui.
gens qui écrivent en disant je trouve que les Américains ont raison ou que les Américains ont tort ou je trouve que dans le conflit israélo-palestinien, voilà ce qu'il faudrait faire les Israéliens,
Donc
les
c'est plus des
Palestiniens.
réflexions
Des
politiques que des
réflexions
critiques.
politiques, oui, plutôt que des critiques sur la manière dont la RTBF, en l'occurrence, fait son travail d'information. Il y en a eu au moment du 11 septembre, et alors à ce moment-là, on a ouvert l'antenne et on en a parlé. Il y en a quelques-unes pour le moment en ce qui concerne les images de violence, et notamment une intéressante réflexion d'un téléspectateur qui dit, bon, j'ai noté que les médias américains avaient censuré toute image de blessés et de morts après les attentats du 11 septembre, mais en revanche, quand il y a des morts ou des blessés, on reçoit des images très sanglantes en provenance de pays du tiers-monde, par exemple du Cachemire. Et là, il n'y a apparemment aucune réticence à montrer ces images. Est-ce qu'il n'y a pas de poids de mesure? Voilà une réflexion intéressante qu'on va traiter.
Et là, si par exemple, je vous écrivais un mail pour dire Nina Bashkatov n'ose pas prendre en bouche le mot de propagande, elle utilise guerre de l'information parce qu'il s'agit du bon côté, etc. Comment est-ce que vous traiteriez une affaire pareille si vous décidiez évidemment de la traiter?
Tout dépend un petit peu de l'argumentation. Tout dépend de l'éventuelle répétition de ce type de critique. Parce que moi, je ne veux pas non plus entrer dans des polémiques de type idéologique. Je crois que comme c'est une émission de médiation, il faut qu'elle se limite à des questions, je dirais, déontologiques ou à des questions professionnelles éventuellement, ou à des questions qui touchent la manière dont le téléspectateur estime être servi par le service public, en quelque sorte. Mais sur l'interprétation à donner aux propos d'une personne, surtout si ce n'est pas un membre permanent du personnel de la RTBF, c'est surtout ça l'important. Quand c'est un invité ou un commentateur invité, c'est évidemment pas la même chose que si c'est François de Brigode.
Non, c'est clair.
Hein. Donc, dans ces domaines-là, moi, je suis assez circonspect, sauf si, effectivement, ça, visiblement, suscitait beaucoup de réactions, ou en tout cas plusieurs. Beaucoup, c'est trois, hein, entendons-nous. Si ça a suscité plusieurs réactions, et si, je dirais en toute honnêteté, je considère qu'il y a là effectivement matière à discussion, quoi.
Alors, j'avais dit en début d'interview que vous êtes médiateur entre guillemets, parce qu'en fait, quand vous écrit, c'est médiation@rtbf.be, mais vous tenez à dire, à préciser que vous n'êtes pas médiateur. Quel est dans ce cas votre statut, votre position exacte, en fait?
C'est un peu difficile à dire. Moi, je suis un peu embêté par ce mot de médiation qui a été utilisé d'emblée pour définir l'émission et surtout pour définir le service qui existait déjà auparavant de médiation, parce que ce mot-là signifie quelque chose de bien précis dans l'esprit de beaucoup de gens et d'un point de vue juridique aussi. C'est-à-dire qu'un médiateur, d'un point de vue juridique, dans beaucoup d'institutions, mais aussi dans des organes de presse ou dans des médias, c'est quelqu'un qui a une fonction bien précise, qui est investi d'un mandat qui consiste à intervenir directement entre le public et la direction ou le personnel pour régler des conflits et pour porter des jugements et pour dire là on a commis une erreur, ici on a fait un pas de trop, etc. Et dans les journaux où il y a des médiateurs, par exemple Le Monde ou le Diario de
Ce
Noticias
soir.
le soir, il y a effectivement une intervention personnelle du médiateur qui dit on nous a écrit pour dire ça, bah effectivement là on n'aurait peut-être pas dû, etc. Et dans les institutions, le médiateur fédéral, par exemple, c'est quelqu'un qui va prendre en considération les plaintes et faire avancer les dossiers. Moi, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas ce mandat-là, je me contente de présenter une émission qui traite de la médiation et qui tente d'aboutir aussi à des résultats, mais sur le plateau, je dirais pas. Ça serait plus efficace si j'étais vraiment médiateur de le faire en dehors du plateau, évidemment, parce que les conflits se règlent plus aisément et de manière plus approfondie quand on n'est pas devant les caméras.
Alors, même si vous n'êtes pas tout à fait médiateur, je vais quand même vous faire réagir à une extrait d'interview d'une interview que j'avais faite avec Serge Halimi, que vous connaissez, puisque je me souviens d'une soirée au Nova où vous étiez tous les deux intervenants.
Oui.
Et on avait
Je
dans
l'ai
la.
même présenté aux grandes conférences de la Fondation Roi Baudouin, conférence Millennium.
Oui, donc dans la conversation, on avait parlé des médiateurs et voilà ce qu'il en disait.
Cette mode des médiateurs, c'est déjà une réponse aux soupçons. On essaie de répondre aux soupçons des lecteurs en leur disant, voyez, l'information fait aussi la critique de l'information. On est à la fois l'information et sa critique, et tout se passe chez nous. On contrôle en quelque sorte tous les termes du débat. On va dire, mais on pourrait critiquer Le Monde. Non, c'est pas la peine. Le médiateur s'en charge. Mais on pourrait critiquer RTBF. Mais non, mais le médiateur s'en charge. Même chose pour France 2. Et le travail du médiateur, c'est très souvent de présenter la qualité de réflexivité des médias. On est capable de réfléchir à notre travail et de le corriger. Le médiateur entretient donc la croyance dans l'excellence du journalisme. L'excellence du journalisme est telle qu'il accepte lui-même de se remettre en cause. Mais naturellement, dans le cas de ces médiateurs, c'est une remise en cause qui est très limitée parce qu'il reste des salariés de l'entreprise qui ne peuvent pas formuler de trop grandes critiques contre l'entreprise, parce que très souvent, d'ailleurs, une fois qu'ils cessent d'être médiateurs, ils retournent dans l'entreprise. Et vous imaginez bien que si vous avez critiqué de manière féroce le directeur de la publication ou le rédacteur en chef ou je ne sais quel chef de service, et que vous vous retrouvez après dans ce service, votre vie est assez difficile. Au moins aux États-Unis, lorsqu'il s'agit des médiateurs, il y a tout de même la pratique qui consiste à les faire venir de l'extérieur et une fois que leur mandat est terminé, de leur dire « vous retournez à l'extérieur ». Donc il n'y a aucune nécessité pour le médiateur de ménager en quelque sorte ses arrières. Mais encore une fois, ce qui me paraît très important dans le phénomène du médiateur, c'est que son rôle principal, c'est d'entretenir la croyance dans l'excellence de l'information et le monopole de l'information sur tout, y compris sa critique.
Jean-Jacques Desperces.
Oui, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, l'instauration de plus en plus fréquente des fonctions de médiateur dans les médias, c'est ce qu'on appelle un MARS, hein, un moyen de remédier au manquement des médias. C'est-à-dire que je crois que de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait une crise de confiance dans l'information, surtout dans l'information télévisée, mais aussi dans l'information en général.
Parce que oui, d'où aussi des médias alternatifs qui surgissent.
Voilà, d'où des médias alternatifs, mais aussi dans les grands médias, cette tentative de récupérer un petit peu de confiance de la part de leur public en instaurant un débat interne et en montrant qu'on est conscient qu'il peut y avoir des erreurs, ce qui est effectivement une façon de dire qu'en général, il n'y en a pas. Hein. Cela dit, moi, je ne suis pas dans cette position-là. Et je n'ai pas, encore une fois, je le répète, je n'ai pas la fonction qui consiste à porter des jugements sur le travail de mes confrères. Je les garde pour moi quand j'en ai. Mais le simple fait de choisir un thème, par exemple, pour une émission, le simple fait de mettre l'accent sur un courrier, c'est aussi une manière de considérer, enfin de faire sentir que je pense qu'il y a là un problème, quand même, une question qui se pose. Donc je pense qu'il y a quand même un petit peu, un petit rôle de médiateur qui est joué. Et par rapport à cette question de la crise de l'information, c'est vrai que c'est une réponse, il y en a d'autres, hein. Il y a la création des conseils de presse, la création des conseils de déontologie, qui vont certainement se multiplier et s'ouvrir à des personnes extérieures. Je pense qu'effectivement, Serge Alimi a raison quand il dit que si on veut vraiment avoir un médiateur, avec la fonction qu'on a définie tout à l'heure, il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'extérieur à l'entreprise.
Oui. En ce qui concerne votre statut, au juste, j'ai lu dans le bulletin de l'Association des téléspectateurs actifs, il est indépendant puisqu'il ressortit directement à l'administrateur général de la RTBF. C'est exact ?
Oui,
enfin, vous êtes directement dépendant de Christian Druy ?
Je ne sais pas si c'est une preuve d'indépendance. C'est simplement que je ne suis pas susceptible d'être soumis à des consignes ou à des pressions de la part de services producteurs ou de la part du service de l'information. Le seul lien que j'ai en principe, et ça c'est dans le contrat en quelque sorte entre guillemets qui a été passé au moment où j'ai été désigné, le seul lien que j'ai, c'est que j'ai à rendre compte d'éventuelles erreurs ou d'éventuels manquements à ma propre déontologie devant l'administrateur général.
Parce que dans une des émissions qui parlait de Pierre Carl d'ailleurs l'année dernière, j'avais un grief à présenter à l'RTBF à propos de Christian Druyt, qui avait, disons grosso modo, dérapé à un meeting électoral des socialistes où il avait collé Elio Di Rupo, à tel point que Pan avait écrit qu'il avait été impossible ce jour-là de filmer Elio Di Rupo sans qu'il y ait en même temps Druyt dans le truc. Il avait fait un laïus contre les libéraux, etc., contre Miller en particulier, qui le lendemain était devenu son ministre de tutelle, mais ça, il ne le savait pas encore. Et le JT était là et avait filmé l'affaire, et Druyt a fait censurer les images. Alors, il me semble que c'est une chose qu'on pourrait envoyer au médiateur, mais s'il dépend justement de la personne qui est accusée du grief, comment faire ?
Je pense que si ça s'était passé maintenant, je l'aurais effectivement évoqué dans l'émission. Et je pense que Christian Druyt serait venu. Je ne sais pas comment il se serait expliqué, mais je crois qu'il serait venu. Oui.
De toute façon, ça va bientôt être l'heure, donc on va terminer. J'ai encore juste peut-être quelques petites questions de fin comme ça. Vous pensez rester médiateur combien de temps? Est-ce qu'il y a un bail qui est défini, disons?
Ah, moi, j'avais dit dans le document que j'ai joint à ma candidature que je pensais que ça ne pouvait pas être une fonction permanente, qu'il faudrait que
Toujours
ce
une rotation.
soit, qu'il y ait une rotation. Et je pense qu'effectivement, au bout de 2 ou 3 saisons, 3 ou 4 saisons grand maximum, on a un peu fait le tour et on commence à devenir soi-même redondant. Donc, je pense qu'il vaut mieux être changé à ce moment-là.
Mais il n'y a rien de prévu,
Mais ce
a
n'est pas
priori.
explicitement prévu, non. J'ai été désigné sans terme précis.
Vous comptez faire évoluer l'émission lors d'une récente conférence que vous avez faite. Vous aviez l'air de vous plaindre un peu du caractère un peu bref. Il me semble qu'elle fait environ 11-12 minutes, quelque chose comme ça. C'est vrai que même si c'est hebdomadaire, c'est pas énorme. Il y a une perspective de la voir se rallonger?
Tout comme l'hebdo du médiateur sur France 2, qui a commencé exactement comme nous à 12 minutes, peut-être que d'ici un certain temps, on se rendra compte que 20 minutes, c'est mieux, je l'espère.
Encore une dernière chose, j'avais lu aussi, je ne sais plus où, il me semble que c'était dans la Libre Belgique, que vous prendriez en compte les réactions aussi bien positives que négatives de la part des téléspectateurs. Je constate après 5 émissions qu'il n'y a pas encore eu de sirop ou de miel passé à l'RTB. Vous recevez d'abord beaucoup de réactions positives?
Il y en a quand même, oui, il y en a. Et il y a même des félicitations. Mais vous savez, quand je dis des réactions positives, je veux dire que quand j'évoque un problème où il y a vraiment des reproches très amers qui sont faits à la RTBF, si je constate qu'à côté de ça, il y a aussi des félicitations, je vais les mentionner
Ah, mais donc vous n'envisagez
par
pas de
souci
consacrer
d'objectivité.
une
Mais je ne
émission
vais
à
pas
ces
faire, je vais pas
félicitations.
faire une émission de félicitations, ce serait ridicule.
Vous me rassurez. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Et voilà, cette deuxième émission de la saison se termine. Je vous fais un petit topo de la musique que vous avez entendue. Il y avait tout d'abord Dick Annegarn avec Le Roi du Métro, c'est sur l'album Bruxelles. Et ensuite, vous l'avez reconnu, c'était Renaud, le déserteur. La version Renaud du déserteur de Boris Vian, c'est sur l'album Morgane de Toi. Voilà, l'émission se termine. N'oubliez pas, c'est rediffusion vendredi à 14h sur les ondes de Campus 107.2. Lundi matin vers 10h sur les ondes de Radio Panique 105.4, tout ça à Bruxelles. Également le site internet www.multimania.com/alterecho. À la semaine prochaine.